Laudetur Jesus Christus.
Une mission au bout du monde annoncée hier soir par surprise. Emmanuel Macron est dans un avion pour la Nouvelle-Calédonie afin de trouver une sortie de crise. Et sur place, le calme reste précaire. Nous retrouverons notre correspondant à Nouméa juste après ces titres. Les catholiques de Chine apportent une contribution importante à la paix et à la société. Les mots du pape François hier alors que se déroulait un colloque célébrant les 100 ans du premier concile de l'Église catholique chinoise. Une expérience encore féconde aujourd'hui. À la une de ce journal également. La canicule qui contraint Inde et Pakistan à fermer des écoles et créer des abris. Le thermomètre devrait monter à 50 degrés dans certaines régions. Et puis gros plan ce matin dans notre dossier sur le franc CFA, utilisé dans 14 pays africains. Certains d'entre eux veulent s'en affranchir. Le CFA est de plus en plus critiqué. Comment et faut-il en sortir? C'est la question que nous avons posée à notre invité à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour, Emmanuel Macron est actuellement dans l'avion. Il est attendu donc dans les heures qui viennent en Nouvelle-Calédonie, 10 jours après le début des émeutes qui a conduit Paris à déclarer sur place l'état d'urgence. Le président français qui effectue une mission express au bout du monde avec pour objectif principal de renouer le dialogue entre les différents acteurs politiques locaux sur un archipel où le calme n'est toujours pas revenu. À Nouméa, les précisions de notre correspondant Jean-François Baudin.
Le président de la République a pris tout le monde de court en annonçant ce déplacement lors du Conseil des ministres. Un déplacement pour écouter et échanger avec les Calédoniens sur la situation actuelle, mais aussi pour installer une mission qui doit permettre d'aboutir à un accord global. Plusieurs hauts fonctionnaires, dont certains ont servi sur le territoire et connaissent le dossier calédonien, sont dans l'avion avec lui. C'est un déplacement à haut risque et aux forts enjeux, car il vise, au-delà du soutien aux Calédoniens, à rétablir, si possible, un dialogue entre des partenaires politiques indépendantistes et non indépendantistes qui ne se parlent plus. Les partis indépendantistes, plus divisés que jamais, sont aussi en quelque sorte pris en otage par la violence déclenchée par la CCAT depuis 10 jours maintenant. Un mouvement issu de leur propre rang et que plus personne ne semble contrôler. Se pose aussi la question du retrait ou non du projet de loi constitutionnel sur le dégel du corps électoral. L'entourage d'Emmanuel Macron fait savoir qu'il prendra une décision à l'issue de sa visite que beaucoup considèrent comme déterminante. Sans résultat probant ou concret, personne n'est en mesure de dire quel sera l'avenir à court et à moyen terme sur l'archipel. À Nouméa, Jean-François Baudin pour Radio Vatican.
Et le président français qui est accompagné de plusieurs ministres de l'Intérieur, de la Défense, mais aussi de la ministre déléguée aux Outre-mer. Le Vietnam a un nouveau président. L'ancien ministre de la Sécurité publique, Tô Lâm, a été confirmé à la tête de l'État ce mercredi par l'Assemblée nationale. Son nom avait été proposé par le Parti communiste au pouvoir. Âgé de 66 ans, Tô Lâm succède à Vôn Văn Thuông qui avait démissionné au mois de mars pour des affaires de corruption après seulement un an à la tête de l'État. De Shanghai 1924 à Rome 2024, c'était une rencontre très attendue hier dans l'amphithéâtre de l'Université pontificale urbanienne. Le pape François, le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, mais aussi l'évêque de Shanghai ont chacun braqué les projecteurs sur un événement historique, celui il y a 100 ans du premier et unique concile de l'Église catholique en Chine, autrement appelé le concile de Shanghai, une expérience aux multiples leçons pour aujourd'hui, notamment pour les relations ecclésiales entre Rome et Pékin. Delphine Allaire.
Des relations délicates, complexes, mais ô combien importantes dans ce monde multipolaire et pour ce pontificat du premier pape jésuite d'Amérique latine qui respecte ce noble pays qu'est la Chine. Il salue ce mardi le travail des pères conciliaires, eux missionnaires étrangers qui ont laissé place à des évêques nés en Chine pour que cette église particulière ait de plus en plus un visage chinois, passe des missions étrangères à l'église missionnaire. Le souvenir de ce concile doit suggérer de nouvelles routes de la foi pour notre temps, souhaite François, remerciant le peuple chinois d'avoir gardé Dieu comme boussole en dépit d'un 20e siècle mouvementé. Soyez de bons chrétiens et de bons citoyens, exhortait-il à 1 millier de kilomètres seulement de l'Empire du Milieu en Mongolie en septembre. Le cardinal Parolin estime ce mardi que l'obéissance au pape ne nuit pas à l'amour de la patrie, au contraire le ravive. Le pape veut que les catholiques chinois soient les meilleurs parmi ses citoyens, assure le secrétaire d'État qui espère un renouvellement de l'accord de 2018 sur les nominations d'évêques en septembre et souhaite aussi une présence stable en Chine. ni nonciature, ni représentation pontificale, mais c'est bel et bien l'objectif affiché dont la forme reste à déterminer.
Delphine Allaire. Des milliers, de dizaines de milliers d'Iraniens sont rassemblés depuis ce matin dans le centre de Téhéran pour les funérailles d'Ebrahim Raïssi. Le président est mort dimanche dans un accident d'hélicoptère. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, doit diriger la prière et la cérémonie d'adieu au président défunt dans l'université de Téhéran. Au Pakistan voisin, mais aussi en Inde, on tente d'affronter une nouvelle vague de chaleur extrême. Le mercure devrait en effet frôler les 50 degrés dans certaines régions et les autorités ont pris des dispositions pour protéger les habitants, alors que les pluies de mousson ne devraient pas arriver avant un mois. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
La canicule touche, comme presque chaque année maintenant, la province du Sindh au sud du Pakistan. Le thermomètre va grimper cette semaine jusqu'à 50 degrés. La chaleur touchera surtout les villages. Or, les coupures de courant y rendent les conditions de vie très dangereuses. Les autorités ont dû mettre en place 1 millier de refuges où seront distribués de l'eau et des médicaments. Les écoles ont été fermées à Karachi, la capitale économique. À New Delhi, les autorités ont pris la même décision face à des températures allant jusqu'à 45 degrés. La situation est encore plus compliquée en Inde. La 6e phase des élections législatives est prévue samedi dans la capitale et les partis multiplient les meetings politiques malgré la canicule. Tout le nord du pays est touché par cette vague de chaleur qui va durer jusqu'à la fin de la semaine au moins. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
L'Irlande et la Norvège s'apprêtent à reconnaître ce mercredi un État palestinien, un autre pays d'Europe. L'Espagne est également sur le point de le faire. Madrid devrait annoncer aujourd'hui la date de cette reconnaissance symbolique. Reconnaître un État palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran et du Hamas, avertit le ministère israélien des Affaires étrangères. Dans la bande de Gaza, les combats, eux, se poursuivent sans répit et la situation humanitaire reste catastrophique pour des centaines de milliers de civils. L'aide arrivée sur une jetée provisoire construite à Gaza par les États-Unis n'a toujours pas été distribuée, selon le Pentagone. Gaza, où le curé de la seule église catholique de l'enclave, le père Gabriel Romanelli, vit désormais de retour au milieu de ses paroissiens après plus de 7 mois bloqués à Jérusalem. Vous pouvez retrouver son témoignage émouvant sur notre site internet. La Commission européenne admet une situation difficile après la parution d'une enquête internationale accablante, selon laquelle des dizaines de milliers de migrants ont été arrêtés et abandonnés en plein désert, au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, et ce avec le soutien financier de l'Union européenne. L'enquête a été publiée hier par plusieurs journaux comme Le Monde, le Washington Post, El País ou encore l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Le refoulement des migrants qui ne concerne pas seulement la rive sud de la Méditerranée. Ainsi, en Finlande, le gouvernement conservateur a dévoilé hier au Parlement son projet de loi pour autoriser les gardes frontières à refouler des migrants et des demandeurs d'asile à la frontière russe. Une proposition très controversée parce qu'elle pourrait bien violer les accords internationaux signés par Helsinki en matière de droits humains. Les précisions de notre correspondante régionale Carlotta Morteo.
Promis à de longues discussions, ce projet de loi montre bien la crispation de Helsinki face à l'instrumentalisation de la migration qu'exerce Moscou sur ses voisins. Après l'arrivée d'environ 1300 personnes sans visa en automne dernier sur sa frontière est, a priori grâce à l'entremise des autorités russes qui auraient transporté les migrants en bus à travers la toundra pour les laisser ensuite traverser la zone tampon du poste frontière jusqu'à la grille finlandaise. Depuis, Helsinki a fermé ses portes à la Russie et seuls 40 demandeurs d'asile se sont présentés. Mais le gouvernement estime que la Finlande doit se doter de nouveaux instruments en cas de nouvelles tentatives de déstabilisation. Outre les pouvoirs élargis des gardes-frontières, le projet de loi prévoit que les migrants renvoyés ne pourront même pas déposer un dossier de demande d'asile, ce qui est contraire aux obligations internationales, notamment à la Convention européenne des droits de l'homme. Pour rester dans les clous, le gouvernement finlandais indique que ce régime sera temporaire, pas plus d'un mois, exceptionnel en cas de crise. Une mesure d'urgence donc qui nécessite tout de même les 5/6 des voix du Parlement finlandais. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
La Russie a annoncé hier avoir débuté des exercices militaires sur l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Des manœuvres qui se déroulent non loin de la frontière ukrainienne, dans le sud de la Russie. Il s'agit notamment de s'entraîner à charger des munitions spéciales dans des batteries de missiles Iskander, des missiles longue portée, mais également à les déplacer de manière dissimulée sur des zones de tir, précise le ministère russe de la Défense. Ces exercices ont été ordonnés au début du mois de mai par le président russe Vladimir Poutine en réponse, selon lui, aux menaces occidentales. Il est utilisé dans 14 pays africains, dont 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africain, le franc CFA, monnaie mise en place en 1945 et depuis plusieurs années critiquée par un ensemble de pays de la région qui y voient un organisme de contrôle de l'ancienne puissance coloniale. Les discours appelant à la reconquête de leur souveraineté monétaire ont trouvé une nouvelle caisse de résonance avec la récente élection du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Parmi ses promesses de campagne, en effet, la reconsidération des accords monétaires liant son pays à la zone CFA. Reste à savoir si la sortie doit se faire par la voie de la convergence régionale, soutenue par ECO, un projet de monnaie unique des 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ou bien par la mise en place d'une monnaie nationale. On revient ce matin sur les enjeux économiques et politiques de cette monnaie avec l'économiste et chercheur indépendant Martial Zebelinga. Il est notamment l'auteur du livre « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ».
C'est une monnaie dont le rôle, le but, c'était de favoriser la déterritorialisation des ressources africaines vers la France, surtout à un moment où, au sortir de la guerre, la France en avait nettement besoin, et même pendant la guerre. Mais c'est également une monnaie qui favorise les importations africaines depuis la France. Quand les pays sont obligés de passer par la Banque de France, parce que c'est la Banque de France qui assure la convertibilité du franc CFA en euros et dans les autres monnaies, c'est un moyen de contrôle, en plus du fait que ces pays sont des clients extrêmement importants de la Banque de France.
De quelle marge de manœuvre disposent donc aujourd'hui les pays membres de la zone franc CFA ?
Le franc CFA est arrimé au franc français par une relation fixe. On disait, voilà, un franc français vaut telle quantité de franc CFA. Et désormais, on a pris cette même relation qu'on a mise en euros. Et quand vous avez une telle relation, vous êtes obligé de suivre la politique monétaire du pays qui a la monnaie la plus forte. Donc, ça implique que les pays ne peuvent pas avoir une politique monétaire autonome. Par ailleurs, dans les règles même du fonctionnement du franc CFA, les pays n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas, par exemple, décider de déprécier ou laisser déprécier leur monnaie ou de l'apprécier. Par contre, leur monnaie s'apprécie automatiquement lorsque l'euro s'apprécie. Comment voulez-vous mener donc une politique structurelle, une politique de longue durée, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de vos taux de change? Derrière les taux de change, il y a le niveau des importations, il peut avoir le niveau des exportations, il y a ce que vous payez également comme dette. Quand les taux de change fluctuent d'une façon que vous ne maîtrisez pas, bien vous avez du mal à faire face à vos engagements.
Comment expliquer alors qu'à ce jour, aucun pays ne soit encore sorti de la zone franc CFA ?
Historiquement, il y a eu une vraie répression des pays qui avaient voulu sortir pour la Guinée, où les militaires français ont reconnu eux-mêmes avoir contribué à la déstabilisation de la Guinée en injectant de la fausse monnaie dans l'économie lorsque le pays a décidé d'avoir sa propre monnaie. Donc il y a cette dimension d'histoire de peur des représailles qu'on peut encore observer avec le Mali, le Niger, etc. Puisque leurs avoirs à la banque centrale du franc CFA ont été bloqués à un moment donné. La deuxième raison, à mon sens, c'est les questions d'aversion au risque qui font qu'on diffère la décision de sortie. Et la troisième raison, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'élites dominantes qui sont des bénéficiaires objectifs du franc CFA, en ce sens qu'ils peuvent transférer leur épargne assez facilement à l'étranger, qu'ils bénéficient d'un certain nombre de privilèges ou de rentes avec des entreprises anciennement installées et qu'ils ne sont pas prêts à remettre en cause les privilèges dont ils bénéficient.
Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dans son programme fait savoir qu'il voulait sortir du franc CFA. Et quels sont les différents scénarios possibles ?
On a des économies qui sont très dépendantes des chocs exogènes. Il suffit, par exemple, qu'une matière première comme le pétrole chute de quelques points pour qu'un certain nombre de pays qui vérifiaient des critères de convergence ne les vérifient plus. Ça peut se faire en 6 mois. C'est pour ça que je pense que ce processus-là n'est peut-être pas aujourd'hui celui qui portera les espoirs d'un certain nombre de Sénégalais et des Africains. La deuxième possibilité, donc le deuxième chemin, c'est la sortie individuelle, qui paraît évidemment plus risquée parce que on ne mutualise pas nécessairement les ressources avec les autres, on ne se couvre peut-être pas complètement quand on est tout seul d'un risque de représailles, mais d'un autre côté aussi, on a plus de coups d'effranche pour mener une politique volontariste et pour peut-être entraîner un certain nombre de pays avec.
Interrogé par Alexandra Siergan, l'économiste Martial Zebelinga était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans 10 minutes, sur notre site et notre page Facebook, vous pourrez suivre en direct l'audience générale du pape François depuis la place Saint-Pierre. L'information, elle reviendra à 13h. Excellente journée à tous.